courant de Sainte sous la Restauration. Et la politique mémorielle de Louis XVIII va en faire des martyrs de la Révolution. Sur une gravure en couleur exaltant les vertus des filles de France, publiée à Paris sous la Restauration, on peut voir 6 portraits devant un rameau de lys blanc et la couronne royale, au-dessus de laquelle est écrit « Le ciel n'est pas plus pur que le fond de leur cœur ». Parmi elles figurent les deux sœurs de Louis XVIII, Madame Clotilde et Madame Élisabeth donc. Comme ils partagent avec la première 3 années d'éducation et aucune avec la seconde, c'est de l'aîné dont il est le plus proche. Preuve de leur amitié, les deux enfants sont souvent associés dans les divertissements de la cour. Aussi, lors d'un bal costumé, Madame Clotilde incarne-t-elle Madame de Maintenon, tandis que Louis Stanislas Xavier campe le roi soleil. Ce qui les réunit et qui divertit aussi la cour, mais à leur insu cette fois, c'est malheureusement leur poids. Comme son frère, Madame Clotilde a de l'embonpoint, et cela dès sa plus tendre enfance, qui du coup ne le fut pas tant. Son mari, prince et futur roi, Charles-Emmanuel de Sardaigne, écrira qu'elle n'a jamais pu connaître la légèreté de la petite enfance à cause de ce corps trop encombrant. Sa rotondité précoce et prodigieuse, pour reprendre ses mots, lui vaut même un surnom pour le moins blessant, celui de « Gros Madame ». Certains font preuve d'encore plus d'imagination dans leur description. C'est le cas de l'écrivain Horace Walpole, qui assaisonne ses remarques désagréables à la sauce britannique en écrivant qu'elle est ronde et potelée comme un pudding. Voilà qui n'arrange pas les affaires de cette pauvre Madame Clotilde. Déjà qu'il est compliqué d'être une fille en ce temps-là. Pour preuve, à la mort de la première fille de leur mère, Marie-Joseph de Saxe, l'avocat au Parlement de Paris note, sans beaucoup d'état d'âme, que cette perte peut affliger Madame la Dauphine, mais elle n'intéresse pas l'État. Le comte de Provence met davantage de temps à se lier avec Madame Élisabeth. Quand celle-ci grandit, il aime se faire éducateur et supervise ses leçons. Une fois son esprit bien taillé, doué pour les mathématiques, elle rédigera même une table de logarithmes complimentée. Il aime échanger avec elle. Pendant la Révolution, leur correspondance est intense. Le futur Louis XVIII constate avec joie que sa sœur développe une pensée politique qui lui est propre et qui s'éloigne de celle de leur frère Louis XVI. Il ne cache pas son admiration envers elle lorsqu'il écrit et semble laisser aveugler par ma tendresse pour elle. Je dois dire qu'il est impossible de raisonner avec plus de sang-froid et de raison qu'elle le fit. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'admirer. Du sang-froid, toute la famille royale en a besoin en ces temps troubles. En janvier et octobre 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette périssent sur l'échafaud. L'émotion est grande chez les princesses qui font montre de courage et de vertu. Chaque 21 janvier, Madame Clotilde assiste à une messe en mémoire de son frère. Une nouvelle date funeste vient bientôt s'ajouter à son calendrier. C'est au tour de Madame Élisabeth d'être exécutée le 10 mai 1794. Jamais une nouvelle n'avait autant bouleversé Madame Clotilde. Son époux tente de l'aménager en lui annonçant la nouvelle en douceur. Mais sa peine est immense. Elle reste un long moment inanimée, puis se mure dans le silence, avant d'adopter une triste robe de laine bleue et coiffe blanche, dans le but d'apaiser la colère du ciel. Comme son frère, Madame Clotilde souffre bientôt d'une maladie lourdement handicapante, la goutte, et meurt le 8 mars 1802. Victime collatérale de la Révolution, elle laisse derrière elle, à l'instar de sa sœur, l'image d'une sainte. Entre-temps, après la mort du jeune Louis XVII au Temple, le 8 juin 1795, le comte de Provence est devenu roi sous le nom de Louis XVIII. Mais il est un roi en exil qui vit entre l'Allemagne, la Pologne, l'Angleterre ou l'Italie. Après son retour en France en 1814, le frère de feu Louis XVI instrumentalise le culte des martyrs du Temple à des fins politiques. En 1817, il ordonne que le corps d'Élisabeth jeté dans une fosse commune soit retrouvé exhumé, comme il l'a déjà fait avec sa mère et avec le couple royal. Mais on ne parvient pas à identifier les restes de la princesse. Son image de sainte lui colle tant à la peau qu'un procès diocésain sera ouvert en 1953 en vue de sa béatification. Marie-Thérèse Charlotte de France, la nièce du roi, n'est pas en reste. Première fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, née en 1778, surnommée Madame Royale, elle a vécu une enfance particulièrement tragique en captivité à la prison du Temple, depuis laquelle elle a vu ses proches périr un à un. Libérée en décembre 1795, Elle part à Vienne où elle est accueillie par l'empereur François II, son cousin, avant de rejoindre la cour de son oncle Louis XVIII en exil et de revenir en France à la Restauration. La propagande royaliste la présente comme le plus fidèle soutien de son oncle et construit la légende de l'orpheline du Temple. Et si Louis XVIII entretient un lien particulier avec sa nièce, c'est aussi car sa naissance en 1778 l'a grandement soulagée. Le fruit de l'union du couple royal se faisant attendre, son mariage était inspecté de près, mais il n'avait guère envie de s'atteler à la tâche qui lui incombait. Le 14 mai 1771, celui qui n'est encore que comte de Provence épouse Marie-Joséphine de Savoie. Une union qui vise à satisfaire la politique extérieure de son grand-père Louis XV. Ce grand-père qui dit de lui qu'il est joli à manger. La référence à son embonpoint n'est jamais loin, mais à 15 ans, il est encore plutôt mignon. La demoiselle, par contre, de 2 ans son aînée, n'a rien d'un canon de beauté. Dans ses mémoires, Bachaumont l'a décrite ainsi. « Cette princesse est très brune. Elle a d'assez beaux yeux, mais ombragés de sourcils très épais. Un front petit, un nez long et retroussé, un duvet déjà très marqué aux lèvres et une tournure de visage qui ne présente rien d'auguste ni d'imposant. » La nouvelle comtesse de Provence n'est pas que laide, elle est aussi morose. Avec elle, l'humeur est rarement à la fête. Il faut dire qu'ayant grandi à Turin, la capitale du silence, de la prière et des processions, elle n'est pas habituée au rire et au faste de Versailles. Voilà qui fait d'elle l'antithèse de la dauphine Marie-Antoinette. Aucun risque donc qu'elle n'éclipse la future reine de France. L'ambassadeur d'Autriche, le comte de Mercy-Argenteau, en témoigne. Marie-Antoinette sent bien la supériorité qu'elle a en tout sur sa belle-sœur, soit par les agréments de la figure, soit par ceux de l'esprit. Madame la comtesse de Provence n'a aucun de ces avantages. Elle n'annonce même aucun talent qui puisse y suppléer. Sa contenance est embarrassée, elle parle peu sans grâce et n'a rien de ce qui est nécessaire à cette nation. Voilà qui est dit et qui prouve qu'à l'époque, personne ne mâche ses mots. Les commérages vont bon train. Comme elle refuse de s'épiler, de se brosser les dents et de se parfumer, Marie-Joséphine est rhabillée pour l'hiver. Son père, Victor Amédée de Savoie, lui écrit même une lettre pour lui rappeler les efforts liés à son sexe. « Cherchez toujours plus à plaire à votre mari. Tout ce qu'une femme fait pour plaire à son mari dans les choses permises est louable, même devant Dieu. Et c'est le cas où les toilettes même et les parures, au cas où cela fut nécessaire, sont vertueuses, au lieu d'être vicieuses. Mais parce qu'elle réserve un accueil chaleureux à la du Barry, favorite royale, la comtesse de Provence est dans les bonnes grâces de Louis XV. Pour ce qui est de son époux, c'est plus compliqué. Pendant quelques années, Louis XVI et Marie-Antoinette n'ayant pas conçu de dauphin, ils sont les héritiers directs du trône. Et eux non plus ne produisent rien. Le futur Louis XVIII est-il homosexuel ? Impuissant ? Ou seulement dégoûté par son épouse? Toutes les questions agitent ses contemporains. Plus tard, lorsque l'on demande à Marie-Joséphine de préparer la duchesse d'Angoulême, nièce de Louis XVIII, pour sa nuit de noces, elle dira non sans amertume. Si je ne lui disais que ce que le roi m'a pris, elle ne saurait pas grand-chose. Car il n'est vraiment pas porté sur la chose, justement. Celle qui devient reine quand son époux monte symboliquement sur le trône, le 21 juin 1795, lui préférera toujours les femmes et l'alcool. Quand son épouse meurt, le 13 novembre 1810, Louis XVIII se montre très affecté. « Mon âme souffre cruellement. Ma consolation est de penser à sa mort, la plus courageuse et la plus édifiante qui fut jamais », écrit-il dans une lettre. S'il n'avait pas fait autant, on aurait presque pu y croire. Celle qu'il portait plus haut dans son estime, c'est sa belle-sœur, Marie-Antoinette, modèle de grâce et d'élégance et peut-être objet d'un amour contrarié. C'est ce que laisse penser sa correspondance privée avec le duc de Lévis. On y retrouve des sentiments violents et contrastés. « Je me dis bien qu'il y a un véritable danger à s'y attacher », écrit-il à son sujet. « Que le poste de son amant, digne en un sens d'être envié par les dieux mêmes, est en un autre pire que les supplices des habitants du Tartare, qui sortant de mes bras, si jamais elle y entrait, elle irait coqueter avec le premier venu, ce qui me boirait le sang, qu'elle voudrait encore me persuader que c'est pour mieux cacher notre jeu, que son cœur étant mauvais, je devrais toujours craindre quelque noirceur de sa part. Heureusement, Louis XVIII trouve du réconfort dans les bras de favorites comme Anne Nompard de Caumont-la-Force, comtesse de Balbi, une dame d'atour de son épouse qu'il côtoie avant la Révolution et même après, car elle va suivre le couple royal en exil à Coblence. Pour Lamartine, Madame de Balbi est une femme dont il aimait l'esprit plus que les charmes. On le redit, Louis XVIII n'est pas lubrique. Son autopsie le prouve, le praticien qu'il a effectué ayant brisé le secret médical, un phimosis naturel témoigne qu'il n'avait pas l'habitude de la masturbation et qu'il n'avait pas abusé du coït. Voilà, maintenant, vous le savez. La comtesse de Balbi, charmante et vive d'esprit, lui apporte surtout le soutien moral et l'affection dont il a tant besoin, ainsi qu'une certaine légitimité à la cour. En prenant une favorite, le monarque s'inscrit ainsi dans la lignée de ses prédécesseurs. Il ne va donc pas s'arrêter là. Quand Zoé Victoire Talon, comtesse du Quéla, devient l'ultime favorite royale sous la Restauration, les temps ont changé. La monarchie est devenue constitutionnelle et le monarque n'a plus d'épouse jalouse de celle qui aurait été sa rivale. Lui aussi a changé. La jeune femme d'une trentaine d'années rencontre en 1817 un homme impotent qui a deux fois son âge. Son corps était énorme, mal soutenu et péniblement balancé sur des jambes et des pieds rongés par la goutte depuis bien des années. Il semblait qu'un brin de paille pouvait lui faire perdre l'équilibre. C'était effrayant, note une contemporaine. Mais si son aspect physique est peu ragoûtant, le monarque peut toujours compter sur son esprit vif et son légendaire sens de la répartie. Au fil de leur conversation, la comtesse du Quéla parvient à gagner son affection et va la conserver jusqu'à la mort du roi qui survient en septembre 1824. Avec l'ultime favorite de Louis XVIII, c'est la première fois qu'une femme tire davantage de profit de sa relation avec le roi que l'inverse. La comtesse du Quéla, Zoé pour les intimes, manœuvre pour se rendre indispensable au souverain infirme. Dans un premier temps, elle se rend une fois par semaine aux Tuileries, le mercredi, mais le roi lui réclame bientôt des relations journalières. En gage de son affection, il va lui offrir un présent monumental, le château de Saint-Ouen, un lieu symbolique où il faisait son retour triomphal, le 2 mai 1814. Plus que la fortune, la favorite qui profite de son rang pour placer quelques amis à des postes prestigieux ambitionne de devenir une figure phare de la capitale et elle y parvient en devenant salonnière. Par sa présence, la comtesse du Quéla comble un vide lié à la solitude intrinsèque au rôle de souverain. Comme l'écrit le chancelier Pasquier, ce prince a eu constamment besoin d'une affection dominante à laquelle il s'est livré tout entier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le roi a bel et bien aimé ses femmes, mère, sœur, épouse, nièce ou favorite, conclut Mathieu Mensch dans l'ouvrage qu'il consacre aux femmes de Louis XVIII. Mais à sa façon, précise-t-il, c'est-à-dire en n'oubliant jamais qui il était, ni quelles étaient ses ambitions, utilisant parfois les figures féminines pour remplir ses desseins politiques, mais aussi pour combler l'effarante solitude qui était la sienne.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire.
Bonjour Mathieu Mensch.
Bonjour Stéphane Bern.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé au sein du laboratoire Arche de l'Université de Strasbourg. Vous avez consacré votre thèse à la duchesse d'Angoulême, la nièce de Louis XVIII. Cette dernière est-elle de celle que le roi a sincèrement aimée? Parce que j'ai un doute en lisant votre livre, j'ai l'impression qu'il l'a beaucoup utilisée comme la pauvre orpheline du temple. Il en a fait d'elle la martyre pour montrer aux yeux des Français le régicide qu'ils avaient commis.
Je pense que les relations entre les deux sont très compliquées. Et pour joliment le dire, je pense que ni l'un ni l'autre ne s'apprécie véritablement. Pour Louis XVIII, clairement, sa nièce est un atout politique. Il se bat pour la récupérer. Elle est à Vienne où elle pourrait couler des jours heureux à peu près tranquille. Il fait tout pour qu'elle revienne auprès de lui parce qu'elle a cette légitimité du malheur. Et il n'oublie pas que de toute la famille royale encore en vie, elle est la seule qui a vécu la Révolution dans sa chair. Faut pas oublier que Monsieur Comte d'Artois, le futur Charles X, il fuit dès les lendemains du 14 juillet 1789. Et le comte de Provence, il réussit sa fuite à Varennes. Alors, c'est bien sûr qu'il ne se termine pas à Varennes, du coup, mais il part la même nuit et lui arrive à bon port. Donc, elle est véritablement la seule qui s'en sort et qui a cette légitimité de la Révolution. Puis elle, de son côté, elle se prête de très mauvaise grâce à toutes ces actions de son oncle. Et puis, sans doute qu'elle a toujours dans un coin de sa tête les rapports un peu compliqués entre le comte de Provence et son père et sa mère. Et que, sans doute, ça l'embête un petit peu aussi.
Mathieu Mensch, vous êtes l'auteur du livre « Les femmes de Louis XVIII » publié chez Perrin. Vous y écrivez dès les premières pages que ce monarque ne pouvait se passer de présence féminine compensatoire. Sa mère, ses sœurs, son épouse, sa nièce, ses favorites. Que venait-elle compenser en fait ?
Alors Louis XVIII, au moment où il arrive sur le trône, a sans doute encore plus de choses à compenser, mais dès sa jeunesse, il a des problèmes. Il est frustré, mais je crois que c'est le cas des éternels seconds. La monarchie française n'accorde de place qu'à l'aîné. Les suivants, et je crois qu'on le vit encore aujourd'hui dans certaines monarchies, ne sont que des remplaçants au cas où. Et lui a ce double syndrome parce qu'il estime être en plus meilleur que son frère dans tous les domaines, plus intelligent, plus brillant. Donc il est frustré et quand il revient en 1814, puis en 1815, il est physiquement l'antithèse de l'image chevaleresque d'un roi. Il peut même plus monter à cheval, ce qui est un vrai handicap. Et donc, il vient compenser ces lacunes physiques qui sont véritables. Et puis, une lacune, vous le rappeliez, virile, qui est véritablement un problème, oui. Quand même, au sein d'une dynastie qui a plutôt été très verte jusqu'à présent.
Oui, on peut le dire, il est impuissant, ou en tout cas, il n'arrive pas à se servir de son instrument.
Clairement, il y a de gros problèmes, et vous avez rappelé son autopsie. A priori, là, il a vraiment pas été porté sur la chose. Et ça n'a pas aidé, mais toutes ces pathologies médicales qui sont venues se superposer ont contribué à faire en sorte que ça ne devait pas être un amant de rêve, c'est une certitude.
Mais si on fait un petit point médical quand même, Joseph II était venu à la cour de Versailles pour supplier son beau-frère Louis XVI de se faire opérer du phimosis. Pourquoi le comte de Provence n'a pas fait de même ?
Alors, je crois que personne lui a proposé, et de plus, est-ce qu'il avait véritablement finalement envie de sa propre épouse ? Est-ce que finalement, quand la chose a été débloquée pour Louis XVI, est-ce qu'il y avait beaucoup d'avantages pour lui à avoir des enfants ? Ça reste assez étrange, mais on a quand même l'impression que l'acte en lui-même, s'il ne le dégoûte pas, en tout cas, ne le passionne pas énormément. Donc je crois pas que c'est un manque dans sa vie, en tout cas.
J'expliquais dans mon récit comment les figures de sa belle-sœur, la reine Marie-Antoinette, de sa mère, la dauphine Marie-Joseph de Saxe, de ses sœurs, Madame Clotilde et Madame Élisabeth, avaient été instrumentalisées par Louis XVIII pour légitimer son pouvoir sous la Restauration. Par quels moyens est-ce qu'il a utilisé ces figures féminines de son entourage ? Je parle cette fois-ci des vivantes, hein, pas des mortes dont il a abusé, évidemment, en termes d'image.
Alors les vivantes, elles arrivent à différents stades. Évidemment, la duchesse d'Angoulême, sa nièce, est le meilleur exemple parce que quand il monte sur le trône en 1814, il est veuf. Et c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi arrive sans reine à ses côtés. Et Louis XVIII, il a eu cette grande intelligence de comprendre que si en France les femmes ne peuvent pas être rois, en tout cas elles sont indispensables à la majesté royale et il faut une femme à ses côtés.
Une première dame en quelque sorte.
Exactement.
Et donc elle va jouer le rôle de première dame.
Elle va jouer ce rôle-là. Et je trouve que le terme de première dame, même si on pourrait me le reprocher parce qu'il est très anachronique, mais il est juste. Je pense qu'il a cette préscience du rôle qui est aujourd'hui celui de la première dame, c'est-à-dire que la duchesse d'Angoulême, au-delà des obligations curiales officielles, elle va se promener dans toute la France, véritablement, elle va quadriller le royaume, elle va aller couper des rubans, elle va aller inaugurer des écoles, voir des malades, voir des personnes âgées, inaugurer des expositions, bref, elle est ce visage doux de la monarchie, et puis encore une fois, ce visage de martyr qui l'agace, parce qu'il faut pas oublier que quand elle revient, c'est plus une adolescente de 18 ans et qu'à la fin, elle a plus de 40 ans et qu'on continue à lui servir de l'orpheline du temple partout où elle va.
Un mot quand même, son oncle a obligé Madame Royale à épouser son cousin Germain.
Alors c'est drôle là aussi comment on réinterprète l'histoire. Louis XVIII n'a qu'une crainte, c'est qu'elle se marie avec un archiduc. Évidemment, l'empereur d'Autriche a ça dans un coin de sa tête. Il se dit que ce serait peut-être un moyen de créer une espèce, comme on a eu les Habsbourg-Lorraine, on aurait là des Bourbons-Habsbourg, de replacer Marie-Thérèse à la tête du royaume de France, flanqué d'un archiduc. Et là, Louis XVIII, évidemment, est en panique, parce que si ce scénario devait se produire, lui n'existe plus. Et donc, il va inventer une pseudo-volonté de Louis XVI et de Marie-Antoinette d'avoir toujours voulu marier Madame Royale avec son cousin Angoulême. Or, quand on y regarde un peu de plus près, ça résiste peu aux preuves. Elle y a effectivement eu, avant la Révolution, des projets de mariage, mais ça se situait plutôt du côté de Naples que du duc d'Angoulême.
Donc, et elle n'a pas eu le choix.
Elle n'a pas vraiment eu le choix, et je pense que ce qui la caractérise quand même, c'est un grand sens du devoir. Elle est Bourbon avant tout, elle se doit à sa dynastie, et elle va donc faire ce qu'on lui demande.
Alors, on comprend en vous disant que Louis XVIII s'est servi des femmes qui l'entouraient, et de leur mémoire, quand elles étaient mortes, à des fins politiques. Mais est-ce qu'à l'inverse, certaines femmes se sont servies de lui, et à quelle fin ?
Alors je pense que dans les rapports, effectivement, c'est toujours y a dans les deux sens. Alors évidemment, on pense toujours aux favorites dans ces cas-là. Chacune s'est effectivement un peu servie du roi parce que ça leur a permis, Madame de Balbi, d'avoir une position à la cour, d'avoir des pensions qui sont nécessaires si on a envie de survivre, évidemment. Puis Madame du Caylat, elle va avoir ce grand talent, vous l'avez rappelé, elle se fait quand même offrir de très jolies choses. Hein. Le château de Saint-Ouen, c'est pas rien. Elle aura un hôtel particulier à Paris. Et puis elle va réussir à manœuvrer très intelligemment, parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas d'être une Pompadour, la politique, ça la passionne pas outre mesure. Elle, ce qu'elle veut, c'est se mettre en sécurité, elle, ses enfants et quelques amis très très proches. Mais finalement, travailler pour les autres, ça l'intéresse absolument pas. Et donc, véritablement, elle se met à l'abri, et tellement bien que Charles X, quand il monte sur le trône, va confirmer tout ce que son frère avait mis en place pour elle. Donc elle a plutôt bien manœuvré effectivement à ce niveau-là.
Elle a obtenu, sur le lit de mort de Louis XVIII, un billet à ordre qui lui a permis de bien vivre.
Ah oui, elle a été... mais d'un autre côté... Finalement, on a presque envie de dire qu'elle l'a mérité, oui. Parce que,
oui, parce
voilà.
Que il était podagre, on l'appelait le roi fauteuil. Franchement, fallait s'en occuper, quoi.
Ah, fallait s'en occuper. Et c'est pour ça qu'elle a joué, plus un rôle de garde-malade et de dame de compagnie que de favorite dans le sens de la du Barry. On n'est pas là-dessus.
Ce qui est intéressant en filigrane, c'est que dans votre livre, vous brossez les portraits de 7 femmes, mère, sœur, épouse ou favorite de roi. Et c'est vrai que ça permet de s'interroger sur la place et le rôle des femmes dans la monarchie française, l'Ancien Régime et même à la Restauration.
Alors certains historiens vous diront qu'elles n'avaient aucune place, donc c'est pas la peine de s'y intéresser. Vous avez rappelé cette phrase un peu sèche sur Marie-Joseph de Saxe. Or, en fait, quand on regarde véritablement ce que les Anglais appellent le queenship, alors il n'y a pas de terme français, c'est pas très joli, mais bon, on se rend compte que les femmes, si elles ne règnent pas, ont un rôle en France. Elles ont un rôle, alors pas nécessairement politique, mais dans le mécénat, dans les arts, dans la charité qui est très important. Comme aujourd'hui, les premières dames reçoivent des lettres, ces princesses, ces reines reçoivent une forte correspondance de gens qui demandent des pensions, qui demandent « ma maison a brûlé, est-ce que vous pourriez nous aider à la reconstruire ?» Et on a dans les comptes, elles annotent en disant « oui, j'accepte, est-ce que cette personne est de bonne mœur ?» et ainsi de suite. Et donc, il y a un vrai rôle à jouer là-dedans. Et puis certaines, parce qu'elles ont des liens privilégiés avec leurs époux, avec leurs vœux, elles arrivent aussi à influer sur la politique. Donc dire qu'elles n'ont aucun rôle, qu'elles ne servent à rien, juste à faire tapisserie et à décorer, c'est vraiment très loin de la vérité.
Mathieu Mensch, Louis XVIII avait-il compris, plus que tout autre monarque, que la monarchie ne pouvait pas se passer des femmes qui avaient besoin... D'abord, c'est la femme qui enfante et qui fait de vous un prince et un roi.
Louis XVIII, alors on a rappelé, hein, il a beaucoup de défauts. Je crois qu'il faut quand même
lui... très égoïste.
Voilà, mais il faut quand même lui laisser quelques qualités, et il a cette qualité première, c'est... celle d'avoir tout compris. En fait, le seul Bourbon à comprendre qu'il peut pas faire fi de l'héritage révolutionnaire et napoléonien. Il est obligé de l'intégrer. D'ailleurs, ça l'embête pas plus que ça, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être sur le trône. Finalement, quelle que soit la manière, Charles X va être beaucoup moins pragmatique. Et il comprend que, sur ce trône, il lui faut des femmes, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, cette relation qu'il va avoir avec sa nièce, la duchesse d'Angoulême, est assez bizarre. Et quand on étudie les choses, et particulièrement l'iconographie, parfois elle est presque gênante. Parce que si on ne sait pas qu'il s'agit d'un oncle et d'une nièce, on a l'impression d'avoir un mari et sa femme dans les représentations. Et c'est même commandé comme ça pour les portraits d'apparat qui sont destinés à garnir notamment l'Assemblée. Et c'est un petit peu gênant parce que on se demande un petit peu quel est ce rôle-là. Et d'ailleurs, ça rebat les cartes dans une société où normalement la femme n'existe qu'au travers du rang de son mari. Elle existe au travers du rang de son oncle. D'ailleurs, son mari est moins qu'elle. Elle est fille de France, donc elle a la préséance sur son mari.
Elle est de sang royal, pas lui.
Pas lui, lui ne le sera que quand Charles X devient roi. Donc elle a le pas sur lui, comme Élisabeth II avait le pas sur le prince Philippe. Donc elle est véritablement celle qui porte la culotte dans le couple.
Mais qu'est-ce qu'il cherchait, Louis XVIII, dans ce rapport avec les femmes? On a parlé de compensation à sa solitude, à sa frustration. Parce qu'il n'y a aucune sexualité. La plupart des femmes dans l'histoire de la monarchie française, il y avait quand même, ça commençait par dans un lit, ou à côté.
Alors, je dois avouer que c'est ce qui m'a intéressé dans le personnage, c'est pour une fois d'avoir ces rapports homme-femme qui soient totalement déconnectés d'un prisme charnel. Et ce qui l'intéresse, alors une de ses autres grandes qualités, vous l'avez rappelé, c'est que c'est un homme brillant. C'est un intellectuel, il parle plusieurs langues, il est capable de citer des pages et des pages de textes en latin, en français, sans oublier une virgule. Et lui, ce dont il a besoin, c'est des femmes qu'il stimule intellectuellement. Et en ça, effectivement, son épouse, c'est un peu plus compliqué, la duchesse d'Angoulême, c'est très compliqué. Et donc, ses favorites, on va se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement les plus jolies femmes de la cour. Par contre, elles sont brillantes, elles sont acerbes, elles manient la langue, elles ont des références. Et ça, il a besoin, ça le stimule profondément.
Il adore ça, lui-même était d'une perfidie totale. Hein, quand il était malade... Et que son frère s'avance, il dit oui bien, vous n'êtes pas encore roi.
Ah, il manie très bien la langue un peu diabolique et d'ailleurs finalement avec son épouse ils s'entendent bien quand ils sont loin.
Oui.
Je crois que c'est le cas de beaucoup de couples. mais eux c'est vraiment ça. Ils ont une correspondance très drôle quand elle se promène entre différentes stations thermales et que lui est fixe en Courlande et ils parlent de certains membres de cette cour d'exil en se moquant d'eux, en les traitant de stupides, et ils ont véritablement cette volonté de se moquer qui est un peu cruelle, mais très drôle.
Mais pour écrire votre livre, vous avez eu accès aux correspondances, je crois, de toutes ces femmes. Quel portrait brosse-t-elle de Louis XVIII? Comment est-il décrit? Elle nuance un peu l'image de ce roi impuissant, incapable de sentiments humains, cynique et un peu cruel?
Alors, particulièrement pour Madame de Balby et Madame du Caylas, ce qui est drôle, c'est que dans leur correspondance, et jusqu'à la fin, même quand Madame de Balby est en disgrâce, elle voue une affection sans borne au roi, et elles lui sont fidèles même après la mort. Et dans aucune lettre, on a quoi que ce soit qui vient contrer ou dire du mal du roi. Donc elle ne le critique pas physiquement, elle ne le critique pas humainement, donc on a vraiment l'impression qu'elles ont un rapport très intéressant. Il y a juste cette phrase drôle de Madame du Balby qui est accusée d'avoir un autre amant, et donc Louis XVIII lui fait savoir que César ne saurait être trompé, et elle lui dit, enfin tout le monde sait bien que je ne suis pas votre maîtresse et que vous n'êtes pas César. Donc voilà, on voit un peu les rapports qu'il pouvait avoir, mais c'est sans doute aussi ce qui lui plaît d'être un petit peu malmené.
Un mot quand même sur les relations du comte de Provence, futur Louis XVIII, avec sa belle-sœur, la reine Marie-Antoinette. Quel rôle a-t-elle joué dans sa vie? Vous racontez qu'il aurait eu une sorte de passion contrariée pour elle.
C'est cette correspondance qui est un peu nébuleuse, j'avoue, avec le duc de Lévis, qui était un de ses favoris, parce qu'elle est énormément codée. Beaucoup de gens ont de noms de code qui sont pas très 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 transparents, bon, ce qui est plutôt pas mal pour des noms de code. Mais effectivement, il a de l'affection pour Marie-Antoinette, mais qui bascule assez rapidement dans la haine. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est plus là aussi une frustration d'orgueil, parce qu'il ne comprend pas comment lui, si brillant, se retrouve avec une pâle savoyarde, et son frère qui trouve très falot se retrouve avec la Habsbourg plutôt charmante. Et puis Marie-Antoinette, qui a dû comprendre les choses, se moque un peu de lui, elle lui donne des rendez-vous, elle ne vient pas, puis finalement elle finit par venir, mais elle est flanquée de Madame de Polignac et du comte d'Artois alors qu'elle devait venir seule. Donc
son autre beau-frère, le comte d'Artois, avec qui elle joue la comédie au Petit Trianon ou dans son théâtre.
Avec lui, elle s'amuse, mais Provence est très donneur de leçons et très, tout ce qu'elle n'aime pas. Et physiquement, on l'a tous bien compris, c'est pas un Napoléon.
Puis ça se trouve, il lui a jamais déclaré sa flamme.
Oh, je ne pense pas. Il aurait été trop vexé qu'elle dise non. Mais je pense que sur ces choses-là, elle était assez fine et je pense qu'elle avait compris qu'en tout cas, il n'était pas complètement insensible à ses charmes.
En 1771, le futur Louis XVIII épouse Marie-Joséphine de Savoie, que vous présentez comme une anti-Marie-Antoinette. Elle est l'opposé de sa belle-sœur?
Anti-Marie-Antoinette, donc ça vient de la chapelle expiatoire qui avait trouvé ce joli titre pour une exposition. Et je trouve que finalement, pas tant que ça, quand on y regarde de plus près, en tout cas, elles ont des fortes similitudes, celles d'être deux princesses étrangères à Versailles, qui sont véritablement, et je crois que le terme n'est pas trop fort, même s'il n'est pas joli, mais qui sont fliquées chacune par un ambassadeur qui rapporte tous leurs faits et gestes à leur cour. Elles sont les enjeux de lutte de pouvoir qui les dépassent. On attend d'elle quand justement elle parasite l'influence autrichienne de Marie-Antoinette, ce qu'elle ne va évidemment pas faire, mais en ça elle se ressemble beaucoup. Par contre physiquement,
oui, bon, c'est pas la même chose. Et puis pardon de dire, mais l'épouse de Louis XVIII est alcoolique, hein, elle boit. Et puis bon, c'est on a le droit, je sais pas là pour le sens, mais elle est lesbienne, enfin je veux dire, ouvertement, elle a une maîtresse, elle l'impose partout, et puis une comment dire, une bourgeoise, c'est-à-dire une roturière. Donc, évidemment, ça fait des drames. On veut interdire qu'elle vienne avec sa copine. C'est transposé aujourd'hui, c'est surréaliste quand même. Hein.
C'est surréaliste et c'est surtout été très peu traité parce que au XIXe siècle, c'était complètement impensable d'écrire et de dire qu'une princesse fut alcoolique. Et pourtant, même dans les journaux intimes de ses frères en Savoie, ils décrivent des scènes où elle arrive ivre morte à des soirées, où elle fait des scandales. Elle-même finit par le reconnaître dans une lettre et elle arrête de boire, elle se tempère. Donc effectivement, c'était un vrai problème.
Mais c'est sa copine, enfin sa
lectrice,
vous l'appelez comme vous voulez, qui la sort de l'alcool.
Alors, c'est ce qu'elle dit en tout cas.
Même si on les soupçonne de boire
ensemble, oui. C'est ce qui va lui être reproché. Moi, je vous avoue que je suis un peu moins persuadé qu'elles aient eu une relation charnelle. Je pense plutôt que c'était une grosse relation de manipulation d'une personne un petit peu pervers, narcissique sur une personne très faible. Est-ce qu'il y a eu relation, en tout cas dans les lettres pour le moment? Rien ne le prouve, mais en tout cas, elles étaient tout le temps ensemble. Oui, ça, c'était problématique. Et comme vous l'avez rappelé, une femme de rien du tout. Et donc, évidemment, les courtisans étaient bien fâchés d'avoir à passer par une Marguerite Gourbillon pour accéder à madame.
Un dernier mot, Mathieu Mensch. On a parlé des femmes de Louis XVIII. Parlons des hommes de Louis XVIII, quand même. Parce que il est resté dans l'histoire comme, il y a un favori, Blacas, à qui il laisse tout. Des souvenirs de la Révolution, des souvenirs de la famille royale. Comment vous expliquez cette faveur exceptionnelle pour certains hommes ?
Il y a comme ça quelques hommes dans son entourage. Alors je vais pas faire de psychanalyse de comptoir, mais notamment quand on pense à Decazes, qui en plus est considéré comme un très bel homme, un jeune homme aussi, hein, qui pourrait être son père. Il y a sans doute quelque part là, d'ailleurs il l'appelle mon fils, il accepte d'être le parrain de son fils aîné. Il y a sans doute quelque chose de l'ordre de la transmission qu'il n'a pas pu avoir avec un enfant à lui. Il est frustré de la transmission qu'il apporte au duc d'Angoulême, puisqu'il commence à le faire, et puis finalement son père, le futur Charles X, reprend tout en main et gâche tout. Et donc il y a sans doute quelque chose de ce rapport un peu filial. On n'a pas de preuve qu'il ait pu avoir des relations. Encore une fois, je suis même pas sûr qu'il aurait pu, même s'il avait voulu avoir quoi que ce soit avec ces garçons-là. Peut-être aime-t-il juste la beauté et être entouré de gens brillants. En tout cas, avec les garçons, eux en tirent par contre un vrai profit politique, puisque tous ces hommes-là vont avoir des ministères, vont avoir des choses un petit peu plus sympathiques que ces dames.
Merci beaucoup Mathieu Mensch de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire de Louis XVIII, le roi et ses femmes. Je rappelle que votre livre Les femmes de Louis XVIII est disponible aux éditions Perrin. Merci à vous.
On retrouvera Stéphane Bern ce mardi dès 15h sur Europe 1. Il nous racontera l'incroyable destin du diamant bleu de la couronne de France, le plus grand diamant bleu du monde, qui a été volé pour la première fois en 1792 et qui a été retrouvé 2 siècles plus tard. Europe 1 vous accompagne tout au long de la nuit. Dans un instant, c'est la libre antenne de Valérie Darmon. Et côté musique, le nouveau Marc Lavoine, Pourrais-je dire encore je t'aime.
Mon cœur était déjà brisé lorsque tu l'as pris dans ta main. J'ignore ce qui m'est arrivé ni de quoi sera fait demain. Je n'ai rien demandé pourtant. J'essayais de me reconstruire. Je me sens si vide à présent. Vais-je savoir encore écrire? Pourrais-je dire encore je t'aime? prenait le change, encore essayait d'avancer, avec le sentiment étrange que la porte s'est refermée. Je vais rire et je vais sourire, comme je l'ai toujours fait. Je vais essayer de dormir, vais-je savoir encore rêver? Pourrais-je dire encore je t'aime? Passer le temps, je vais le prendre comme il vient, le perdre un peu de temps en temps, comme quand on promène son chien. Au fond, je n'en veux à personne, la nature humaine est ainsi. Si l'espérance m'abandonne, vais-je savoir vivre encore ma vie? Je t'aime.
Pourrais-je dire encore je t'aime, le nouveau Marc Lavoine sur Europe 1 qui nous confiait en 2018 être atteint de l'hypémanie comme sa maman. C'était un peu plus profond que la mélancolie en fait. Il a expliqué qu'il a vu sa mère dépérir petit à petit et qu'elle était plus capable de dire je t'aime aux personnes qu'elle aimait le plus, tout du moins à savoir ses enfants. Et vous savez qu'on parle de tout dans la Libre Antenne, on parle de maladies, de souffrances, d'amour, d'abandon, des confidences. Vous êtes nombreux en tout cas à nous en faire dans le cadre de la Libre Antenne. On va retrouver tout de suite Valérie Darmon, qui je le rappelle est à votre écoute les vendredis, samedis et dimanches de 22h30 à 1h du matin.
Bonsoir Philippe.
Oui, bonjour Valérie.
Merci d'être
bonsoir, avec nous. Bonsoir plutôt.
Bonsoir, bonjour. On écoute un petit peu partout dans le monde, alors vous savez, après
mais,
tout,
très bien.
Le principal c'est d'être ensemble. Alors je rappelle Philippe que vous êtes psychiatre, thérapeute de couple, directeur des enseignements de sexologie à l'Université Paris-Cité, auteur de nombreux ouvrages, notamment L'incroyable histoire du sexe en bande dessinée.
Ah oui, ça c'est...
Les arènes. Oui,
oui, oui.
Dites-nous.
C'est vrai que ça permet au moins... On est quand même devant un média nouveau, il y a qu'à voir l'emballement, quelles que soient les générations, pour la bande dessinée, et la même histoire, je l'aurais écrite dans un livre, c'est à la fois quelque chose d'important, de passionnant, mais qui passe totalement en BD, et qui est beaucoup plus compliqué à expliquer dans un livre traditionnel. Donc il y a de nouveaux modes, des nouveaux codes pour une nouvelle compréhension de la sexualité, voilà, et puis du bonheur, puisque vous parliez du bonheur des gens heureux.
Et voilà. Oui, ce soir c'est une émission sur les amours heureux. On a déjà traité des amours perdus et on a aussi traité du décryptage des rapports amoureux. Ce soir on parle d'amour heureux parce qu'il y en a aussi, même si je ne vous le cache pas, on a eu des difficultés à trouver des gens qui voulaient nous raconter des amours heureux. Alors vous qui êtes au cabinet tout le temps, qui êtes un grand chercheur, est-ce que vous avez constaté que c'était rare les amours heureux ou pas ?
Mais d'abord, pour nous c'est extrêmement rare, puisque la plupart du temps ils viennent pas nous voir, puisqu'ils sont heureux. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est que au décours de tous les couples qui sont en difficulté, on découvre une chose, c'est qu'il y a toujours eu une période dans les couples qui a été extrêmement heureuse, sinon ils ne seraient pas restés ensemble. Et je me suis aperçu, il n'y a pas très longtemps, que cette période, c'était toujours au début.
Ah.
Et que c'était jamais à la fin.
Alors, est-ce que c'est ce fameux timing, l'amour dure 3 ans ?
Alors ça, c'est Bec Guédé qui a récupéré ça de cette façon-là. Il y a des choses autour de... Moi, je dirais que c'est même moins que ça. Parce que il y a, dans ce qu'on appelle l'amour, alors il faut voir ce qu'on appelle l'amour, mais ça serait l'état amoureux, c'est-à-dire peut-être certains ont pu parler, même parmi nous les psychiatres, il y en a qui ont dit c'est une maladie, c'est une folie l'amour. Mais oui, parce qu'il n'y a qu'à voir de quelle façon dans un moment d'amour fou, d'ailleurs ça se dit l'amour fou, eh bien on peut être déraisonnable, on peut faire des choses extraordinaires. Extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles ne se reproduiront pas à l'ordinaire, et tout le problème va être là, c'est que dans ce moment de l'ancrage du début de la relation amoureuse, eh bien effectivement on va rêver la relation d'une certaine façon, et dans le fond, ceux qui vont durer dans cet état tout à fait bienheureux, c'est ceux qui vont accepter de faire un peu le deuil de la passion totale. Alors que, effectivement, pour d'autres, c'est insupportable, on n'est plus autant amoureux qu'avant. Donc il y a toujours eu un moment extraordinaire, mais moi je crois qu'on peut le tenir au long cours si on accepte de faire le deuil de la passion, et on va à ce moment-là être régulièrement amoureux, de temps en temps revivre des moments passionnels, vivre tout le temps sur le mode de la passion, c'est pas possible, et on s'en rend compte, à moins qu'on ait justement peut-être des auditeurs, des auditrices qui nous parlent d'une passion permanente.
C'est souvent destructeur hein, quand même, hein. Une passion permanente, c'est un tsunami dans une vie. Hein. On peut aller jusqu'à en mourir, même si au XXIe siècle on ne meurt plus d'amour, mais on peut aller jusqu'à quand même.
Si on meurt d'amour dans des excès, que ce soit des excès de comportement, des excès dans les effusions, quelles qu'elles soient, si ça peut arriver, hein, on peut mourir d'amour.
En tout cas, on peut se mettre en danger.
Et puis il y a beaucoup de choses terribles qui peuvent se passer en amour, puisqu'on peut ça lève des barrières, on transgresse, on dépasse des bornes, et tant mieux, c'est ça aussi qui est formidable. Le nombre de poètes ou de gens qui sont révélés dans des choses extraordinaires, dans les moments amoureux. Il y a qu'à voir aussi combien d'artistes, je pense à Picasso, mais il y en a plein d'autres que ça, qui ont des phases d'expression artistique extraordinaires dans tous les moments amoureux, et puis certains ils retombent après, ils retombent amoureux, et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui se... La création artistique, c'est souvent nourri des moments de passion.
Oui, mais ils ne vivent pas d'amour durable, si ?
C'est compliqué.
Parce qu'on cherche l'adrénaline de la passion, c'est pas la même chose.
Eh bien oui, mais regardez, lorsque vous évoquez sur le bonheur, alors quel est le terme exact que vous utilisez pour aujourd'hui ? C'est plutôt quoi que l'on recherche ?
Moi, je voulais vous poser comme question, et ça va dans le même sens, c'est quoi l'amour, finalement ?
Ah, ça alors.
c'est un peu la même question que celle que vous me posez. Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est quoi l'amour ?
Non, je disais quel était le titre que vous vouliez donner à l'émission, mais...
Ah, l'émission, c'est les amours heureux. Aujourd'hui, on parle d'amour heureux. Hein, pas des amours destructeurs.
Voilà, c'est ça, parce que définir l'amour, il y a tous les philosophes, j'ai même fait un petit livre avec André Comte-Sponville qui s'appelle « Qu'est-ce que l'amour ?» il y a une vingtaine d'années. Mais bien sûr qu'on ne peut pas définir l'amour. Il y a beaucoup de formes extrêmement différentes. Par contre, on se retrouve sur une chose particulière. L'amour est spécifique des humains. Ce que nous appelons l'amour. Je ne connais pas une espèce animale qui est cette espèce de mécanisme d'attraction entre deux individus et qui va donner ce qu'est la grande affaire des humains dans toutes les sociétés et qu'on va appeler amour. J'aime beaucoup une définition de mon très proche ami Boris Cyrulnik que vous connaissez.
Oui.
Et Boris dit ceci, quand on tombe amoureux, et alors il utilise bien ce terme dans la langue française qui est le fait de tomber et qui montre bien que c'est un événement extrêmement rapide. Lorsqu'on tombe amoureux, on se relève attaché. C'est-à-dire qu'on va se passer quelque chose, mais ensuite, entre ces deux personnes vont rester souvent attachées, qui va donner sûrement les couples heureux dont on parle, mais qui va donner aussi une part des couples, sinon malheureux, difficiles, puisque on s'est retrouvé très proche, mais on a du mal et on ne peut pas se détacher. Regardez le nombre de gens qui essaient sans arrêt de se détacher, qui n'y arrivent pas. Alors par contre, lorsqu'on veut définir ce que vous appelez, par exemple, les couples heureux, l'amour heureux, eh bien, c'est compliqué, parce que je ne connais pas les ingrédients, la solution. En tout cas, l'amour, le tomber amoureux, c'est quelque chose qui est totalement humain, qui se passe entre deux personnes. Énormément d'auditrices, d'auditeurs qui nous écoutent ont pu connaître ça à un moment de la vie. Ensuite, la grande difficulté va être que ça continue sur le même mode, sans être extrême, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à vivre une passion, mais que ça soit suffisant pour entretenir l'idée de bonheur, c'est-à-dire d'abord de valorisation de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, dans au contraire, le relâchement, la perte du moment passionnel, mais très souvent il y a une désillusion, notamment je pense parmi beaucoup de générations très jeunes, dans lesquelles, sur le mode des feuilletons américains, on voit, ou des séries, on se rend compte que l'amour-passion doit être la règle, ou sinon on se sépare. Eh ben oui, mais dans la vie, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a un amour-passion, et ensuite, il va falloir essayer de l'entretenir pour qu'on reste amoureux sans tomber dans l'éloignement. C'est quelque chose d'un petit peu difficile.
Et puis Philippe, on n'est pas obligé de passer par la case passion non plus. Hein. On a Sophie qui vient de témoigner, 22 ans, d'une maturité incroyable. Bon, on a certains auditeurs qui ont dit ça manque de passion, justement. Elle a commencé par une grande amitié avec son compagnon. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, relation à distance. Oui. Ensuite, oui. Ils se sont quittés parce qu'elle voulait parcourir le monde. Ils se sont retrouvés, ils sont toujours aujourd'hui ensemble. Bien sûr. Une maturité, mais incroyable,
ah oui.
Où on passe pas, on coche pas forcément la case passion. Est-ce qu'elle est, obligatoire dans ses amours au long cours, la case passion?
Alors, vous touchez le point essentiel, c'est que cet amour, même si je disais, c'est quelque chose de caractéristique des humains, il doit être appris, puisqu'on va apprendre, regardez au fil des histoires amoureuses dans notre vie, et chacun a pu en vivre des petites, des grandes, mais quelquefois plusieurs grandes, eh bien, on va apprendre à entretenir, à moins se casser la figure, j'allais dire, mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction sociale, c'est-à-dire que notre société nous donne des images de l'amour heureux. Et encore une fois, ce sont les films emblématiques. Tiens, j'ai été voir aujourd'hui même Monte Cristo.
Ah oui.
Et okay, je recommande, c'est extraordinaire, mais il y a plusieurs amours passions dedans, et des amours heureux, mais effectivement ils durent peu, puisqu'ils deviennent malheureux. Eh bien justement, ces images que nous propose le cinéma, les séries, et ainsi de suite, eh bien souvent, nous entraînent à vivre des extrêmes, alors qu'en fait les extrêmes sont difficiles à vivre au long cours. Et moi je donne simplement un conseil pour tous ceux qui sont dans un amour-passion, bien sûr de le vivre, mais ensuite de se dire que même si ça tiédit un petit peu, eh bien, il faut le continuer, l'entretenir, ne pas du tout être désillusionné, parce qu'à ce moment-là on va le raviver, et il faut réveiller la flamme très régulièrement, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire.
Oui, c'est ce que disait Sophie du haut de ses 22 ans. Elle, ce qui l'interpellait dans le fait qu'elle soit à distance, c'était qu'elle ne pouvait pas se réinventer, créer du mouvement dans son couple. Je la cite, à 22 ans, je trouve que c'est hyper mature. C'était ça qui l'ennuyait. En fait, l'important, c'est de créer tout le temps du mouvement.
Ça, c'est encore autre chose, créer tout le temps du mouvement. Oui, c'est aussi, peut-être qu'elle est très jeune, ça je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de je veux aussi avoir ma vie en mouvement, sinon je me sens que je dépéris.
Non, mais elle parlait avec son compagnon, hein, pas de son côté. De son côté, oui. Elle avait sa vie en mouvement, mais ce qui l'interpellait du haut de ses 22 ans, c'était de pouvoir renouveler son couple.
Eh bien oui.
Voilà,
oui.
D'arroser la plante. Hein.
Alors, je suis entièrement d'accord. Alors là, par contre, c'est amusant que cette image soit proposée. C'est quelque chose que je dis très souvent. Ça correspond beaucoup à ce qu'on appelle le sentiment amoureux féminin, qui est beaucoup plus végétal. C'est-à-dire, et c'est un conseil aux hommes qui peuvent nous écouter. Le conseil, moi, c'est mon expérience. J'ai vu plus de 1000 couples dans ma carrière de thérapeute. Dans le sentiment féminin, c'est un conseil que je donne aux hommes, il faut l'arroser tous les jours, sinon il peut se flétrir, même à l'insu de la personne. Donc tous les jours, il faut l'arroser. C'est très beau cette image qu'elle nous propose et qui est très juste.
Quel conseil vous donneriez alors aux femmes? Ça, c'est le conseil aux hommes. Hein. C'est moi qui utilisais l'image de l'arbre, évidemment. Mais quel conseil vous donneriez aux femmes?
Moi, je dirais, autant aux femmes qu'aux hommes, essayez, parce que, et voyez, là encore, moi je parle des couples de sexes différents, c'est-à-dire c'est la majorité des couples, hein, ça n'enlève pas les couples de même sexe, vont avoir d'autres problématiques, mais il y a des grandes différences entre hommes et femmes, et actuellement, on est dans une période où on prend pas ça en compte, puisque, un peu comme si c'était de la construction qui va disparaître, mais non, il y a des grandes différences, et ce n'est pas simplement l'individu, l'autre d'un autre sexe, qui serait insupportable parce qu'il y aurait ceci ou cela. Acceptons l'autre dans sa différence. Essayons d'entendre que ce qui est dit, c'est pas forcément ce que nous entendons. Parce que c'est ça qui va miner un petit peu le couple de sexes différents. Au fil des semaines, des mois, des années, eh bien, c'est que de croire qu'en définitive, on serait pareil et on voudrait essayer d'atténuer ces différences. Elles sont au contraire à valoriser. Nous sommes très différents et les hommes, moi je crois, comprennent beaucoup moins les femmes que les femmes peuvent nous comprendre, nous les hommes. Donc le conseil aux femmes, c'est d'accepter que les hommes vous comprennent moins. Parce que autrement, il va y avoir de l'intransigeance qui très souvent va se heurter. Et c'est ce que je vois, moi, puisque je ne vois que des couples heureux qui sont dans une phase suivante dans laquelle ils s'accrochent parce qu'ils sont très attachés. Mais c'est difficile si on ne reconnaît pas les différences. Donc, tous les couples peuvent rester heureux s'ils reconnaissent bien, s'ils écoutent l'autre comme différent.
Comme différent, mais il faut quand même avoir des valeurs communes.
Alors, ça, c'est
encore autre chose. Mais, hein. Oui, je vous emmène sur le terrain des valeurs, parce que les valeurs, elles sont infinies. Alors que bon, le reste peut dépérir. Voilà.
Vous avez complètement raison, mais les valeurs, ça, on va se rencontrer sur les premières fois où on se rencontre. Bon, on va plutôt être avec quelqu'un qui a des... On va essayer de voir très vite si les valeurs sont assez proches. Mais ce dont je parlais comme différence, c'était des différences hommes-femmes. Les différences femmes-hommes. On n'en parle jamais. Vous n'avez pas une... Car c'est le féminisme qui veut tout égaliser. Moi, je suis un homme féministe. J'ai passé ma vie à aider et je continue à pouvoir aider. Au contraire, enlever toute discrimination, ainsi de suite. Mais... Les différences que nous avons sont des différences fondamentales qui vont souvent empêcher ou freiner le fait d'être heureux. Reconnaissons que l'autre est différent. Un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Et à partir, vous voyez, c'est très difficile. Jamais on peut le dire aujourd'hui, ça. Et par contre, c'est pas la même chose que les valeurs. On peut avoir des valeurs très proches ou les mêmes valeurs et des différences de perception, de mémoire, de façon de ressentir et d'exprimer les émotions, et qui ne sont pas que de la culture. Les hommes et les femmes sont très différents. Acceptons-nous tels que nous sommes. C'est pas facile, parce que très souvent, on va l'imputer à l'autre. Mais toi, tu pourrais faire un peu plus d'effort sur ceci ou cela. Bah, vous savez, la grande phrase, je vais vous dire, puisque là, je tiens un discours qui est pas politiquement correct aujourd'hui.
Mais vous êtes dans la libre antenne. Alors, dans la libre antenne, on est libre.
Oui, mais regardez,
on est libre.
Ce qui se passe très souvent. Regardez le nombre de fois où c'est très insupportable pour une femme de pas être comprise. Et cette femme va dire à son homme, elle dit, mais j'en ai marre, je te l'ai dit 10 fois. Ma meilleure amie, je l'ai dit une seule fois, elle a compris. Et là, elle a du mal, si je ne lui explique pas dans le détail, à comprendre, mais parce qu'elle a le même logiciel. Ça, vous n'entendrez jamais parler. Regardez, c'est comme si je disais une chose incongrue qui serait sexiste. Pas du tout. Nous n'avons pas les mêmes logiciels, et c'est ça sur lequel j'insiste, des différences qu'il faut accepter. Et à ce moment-là, oui, là, le couple devient heureux, beaucoup plus facilement. Mais c'est pas un travail. Une voie très facile.
En tout cas, c'est un travail, ça c'est sûr.
Ça, c'est très vrai.
Voilà, trouver la troisième voie, celle de la communication, faire comme un, c'est compliqué quand même.
Eh oui, mais vous avez raison. Il y a une voie de communication à trouver. Parce que la voie de l'amour, on ne la cherche pas. Elle vient toute seule. On ne va pas s'obliger à aimer quelqu'un. Et d'ailleurs, regardez le nombre de fois, ça nous est arrivé à tous, à vous, à moi. Nous est arrivé, par exemple, d'être stupéfait, d'apprécier et peut-être même d'aimer d'un seul coup quelqu'un qui, allez, la fois précédente, nous paraissait à moitié intéressant. C'est l'histoire de la rencontre, par exemple, de Georges Sand et de Frédéric Chopin. Chopin dit, qu'est-ce que c'est que cette femme qui est très grossière, et elle dit, jamais je ne parlerai à cet homme. Le deuxième jour où ils se rencontrent, ils tombent amoureux, scotchés l'un de l'autre. Ça peut nous arriver, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la volonté. Le choc amoureux, il a à voir avec des images intérieures, avec le choc de valeurs personnelles. On a reconnu quelque chose dans l'autre. Mais le fait de continuer cette relation, puisque comme disait Cyrulnik, on est tombé amoureux, on reste attaché. À ce moment-là, pour poursuivre cet attachement, et qu'il soit heureux, qu'il continue à être heureux, mais il va falloir accepter les différences, parce qu'elles vont se découvrir. On a l'impression, dans le choc amoureux, c'est formidable. D'ailleurs, regardez, les premières semaines, on ne s'est pas quitté un seul jour, on se tenait par la main, mais après, tout le reste de la vie sera différent. Donc c'est à nous, au contraire, de faire cette troisième voie dont vous parliez, où on va essayer de comprendre, d'aménager, pour garder ce moteur formidable qui est l'amour heureux, qui nous est venu par hasard, puisque personne ne l'a décidé ni cherché. Très souvent même, c'est très surprenant. Et sûrement vous aurez des commentaires, des témoignages.
Allons dans ce sens, oui. Et d'ailleurs, vous parlez de choc amoureux. Mais tout de même, Philippe, est-ce qu'il faut être prêt? On dit souvent qu'il faut être prêt, on dit toujours, mais t'es pas prêt, il n'y a pas l'espace, voilà, tous ces trucs-là. Là.
Alors, vous avez raison. Il y a quelques années, je me souviens avoir écrit un livre, où il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Un jour, mon prince ». Le sous-titre, c'est « Rencontrer l'amour et le faire durer ». Et à ce moment-là, j'avais même fait une enquête sur le choc amoureux, sur le coup de foudre. Avez-vous, alors j'avais eu une centaine de personnes qui m'avaient répondu, hommes et femmes, avez-vous connu un choc amoureux, un coup de foudre, de quelle façon ça s'est passé, ainsi de suite. Et en définitive, de quelle façon c'est survenu, et comment avez-vous fait pour l'entretenir? Alors, c'est moi qui viens de perdre exactement votre question, parce que je pars dans mon...
Est-ce qu'il faut être prêt? Ma question, c'était,
oui,
est-ce qu'il faut être prêt
à rencontrer l'amour. Et c'est ce que je racontais, parce que j'ai tellement suivi, et nous, les psychologues, les psychiatres, on a beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent, qui sont malheureux, parce qu'on nous raconte aujourd'hui que tout le monde tombe amoureux. Ça se voit dans les, toujours pareil, les séries, les films, ce que vous voulez. Et on essaie souvent de donner des conseils. J'ai combien de fois fait des petites annonces sur les sites de rencontres avec tel ou tel patient ou patiente. Et je leur ai dit, bah, écoutez, vous allez vous débrouiller pour être prêt. Donc on va se mettre à être prêt, parce que vous n'êtes pas prête. Et je pense par exemple souvent, surtout des femmes, c'est-à-dire qui très souvent font peu de rencontres, mais en grande partie, parce que pour des raisons personnelles, de l'histoire personnelle auparavant, eh bien je vais avoir telle et telle chose qui m'ont gêné, à ça je ne veux surtout pas. Eh bien à ce moment-là, effectivement, beaucoup de mécanismes de défense, on va appeler comme ça, vont se mettre en jeu. Et quand je rencontre quelqu'un, mais peut-être que j'ai fait des réflexions qui vont faire que la personne a fait demi-tour. Alors on va travailler, et ça peut se faire d'ailleurs avec beaucoup de psychothérapeutes peuvent aider à être prêt, on peut le faire soi-même, c'est-à-dire d'abord être prêt à ne jamais dire non, c'est-à-dire à tout accepter, mais tout accepter, attention, non pardon.
J'allais vous demander, c'est-à-dire
c'est différent, c'est plutôt de ne rien refuser, et je vais le dire pour les auditrices surtout et les auditeurs, ne rien refuser ce n'est pas tout accepter. Voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas refuser. Vous voulez prendre un verre avec plaisir. Quel est le problème? Et beaucoup ont peur. Et je pense, par exemple, à pas mal de filles qui ont eu des